France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, quel avenir pour la gauche après le coup de tonnerre d'hier soir? Le renoncement de François Hollande va-t-il permettre de rebattre les cartes? Quelle sera la portée de la primaire organisée au mois de janvier, sachant que ni Emmanuel Macron ni Jean-Luc Mélenchon n'y participeront? Et quid de ces deux gauches irréconciliables, pour reprendre les termes de Manuel Valls? On en parle ce soir au téléphone sonne avec l'historien Jean Garrig qui est resté à nos côtés, avec nous également la politologue Anne Muxel, directrice de recherche au CEVIPOF, dont le dernier ouvrage s'intitule « Temps et politique ». Les recompositions de l'identité. Bonsoir Anne Muxel.
Bonsoir.
Et Gaël Slimane, le président de l'Institut Odoxa. Bonsoir Gaël Slimane. Pour interpeller nos invités ou pour réagir tout simplement à l'intervention de François Hollande, vous avez franceinter.fr et les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson. Vous avez aussi le standard 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et nous partons tout de suite au standard où nous attend Samuel. Bonsoir Samuel.
Oui, bonsoir.
Vous êtes
merci
à l'antenne.
Alors, j'aurais une question qui me tracasse, parce que tout le monde critique ce monsieur Hollande-là. Et c'est quand même Manuel Valls, le chef du gouvernement. C'est lui qui gouverne, non?
C'est lui qui gouverne?
Oui, c'est lui qui gouverne. Je sais pas, dans les verbes, moi, c'est ça que je me dis. C'est que, alors, si y en a un qui est responsable, l'autre aussi est responsable. Mais pourquoi c'est toujours le même qui prend, quoi? C'est...
Bonne question, c'est Samuel. On va poser la question, peut-être à Gaël Slimane?
Bah oui, c'est une question qu'on peut se poser. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous regardez les sondages d'intention de vote qui sont réalisés aujourd'hui en testant des hypothèses Valls ou des hypothèses Hollande, finalement le bénéfice pour le moment pour le candidat qui représenterait l'exécutif de gauche, si c'est Valls, le bénéfice n'est pour le moment pas énorme. Donc évidemment ça n'a aucune valeur prédictive, hein, c'est simplement une photographie à un moment donné, mais ça va être toute la difficulté de Manuel Valls dans la primaire de gauche face par exemple à l'autre favori qui incarne autre chose, Arnaud Montebourg. Toute sa difficulté, Manuel Valls, ce sera d'expliquer qu'il est à la fois solidaire et fier du bilan commun qu'il a avec François Hollande, et en même temps qu'il peut incarner, sinon une rupture, du moins un peu autre chose. D'une certaine manière, c'est ce qu'a réussi François Fillon à droite, puisque malgré tout, il était lui aussi le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Les électeurs de droite n'ont pas voulu de Nicolas Sarkozy, ils l'ont rejeté, et ils ont choisi en alternative, et bien finalement, celui qui a été son Premier ministre.
Anne Muxel, politologue. Manuel Valls doit démissionner dans la situation actuelle?
Il est difficile qu'il fasse une campagne pour une primaire tout en gardant les responsabilités qui sont les siennes. Donc probablement, il doit le faire. Alors pour l'instant, c'est très difficile de dire à sa place ce qu'il va faire, mais il devrait le faire.
Et qui pourrait prendre sa place pour les derniers mois, Jean Garrig?
Écoutez, moi je me contente d'être historien.
On parle de Bernard Cazeneuve,
c'est ce que j'allais
fidèle
dire.
D'entre les fidèles.
Il semblerait que, voilà, de par ses responsabilités de ministre de l'Intérieur, il ait peut-être vocation à succéder à un ancien ministre de l'Intérieur qui est devenu lui-même premier ministre. Et puis c'est un fidèle. C'est toujours utile d'avoir un ministre de l'Intérieur en perspective d'élection présidentielle. Donc oui, c'est vraisemblable. Mais pour revenir à la situation de Manuel Valls, c'est la faute à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a théorisé le Premier ministre collaborateur. Et au fond, l'idée que se font les Français, c'est que précisément, un Premier ministre n'est pas responsable, n'est plus responsable, que c'est véritablement le Président de la République qui oriente et qui fixe les grandes orientations, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, surtout qu'aujourd'hui, le Président de la République, a priori, devient aussi un chef de majorité, enfin, lorsqu'il la tient. Et donc, tout ça fait que ça sera difficile pour Manuel Valls d'échapper au poids du bilan, mais qu'il peut avoir aussi la possibilité, un peu comme François Fillon, de s'en distinguer. Bon, la différence, c'est que François Fillon, lorsqu'il était Premier ministre, avait commencé à manifester quelques réticences, et même plus que ça, face à la politique menée par Nicolas Sarkozy. La situation, sauf depuis quelques semaines, était plus compliquée pour Manuel Valls, d'autant plus qu'il est quand même, aux yeux du reste de la gauche, peut-être le principal responsable de l'évolution, on va dire, entre guillemets, social-libérale de François Hollande. Donc c'est quand même difficile.
En tout cas, le FN, Gaël Sliman, aura beau jeu de dénoncer la candidature de ce qu'il appelle les doublures, hein, doublure de Hollande, doublure de Nicolas Sarkozy.
Oui, alors ils le font surtout au Front National parce qu'ils semblent avoir assez peur de François Fillon. Quand on regarde l'effet qu'a produit la victoire de François Fillon à la primaire de la droite sur le score du FN, c'est tout simplement hallucinant. Hein. On avait une Marine Le Pen qui se situait quasiment de façon constante à 30% dans les intentions de vote. Sa qualification à l'issue du premier tour de la présidentielle paraissait absolument inéluctable. Et on a réalisé un sondage Odoxa juste après la victoire de François Fillon à la primaire de la droite. Elle tombait de 10 points, Marine Le Pen. Elle redescendait de 10 points, elle tombait à 22%. Ce qui change la donne, parce qu'on ne sait pas si ce sera durable, peut-être même que finalement, c'est ce qu'elle espère, le positionnement thatchérien et réganien de François Fillon lui permettra peut-être de remonter à Marine Le Pen, mais pour le moment, à cause de François Fillon, elle perd du terrain. C'est pour ça qu'elle s'emploie à comparer François Fillon à Nicolas Sarkozy et évidemment Manuel Valls à François Hollande.
On repart au standard de France Inter, c'est Gilles qui nous appelle de Sevran. Gilles, c'est à vous, bonsoir.
Bonsoir. Eh ben écoutez, moi ma question, question d'ancien militant socialiste, toujours très très versé en fait dans les affaires qui touchent au socialisme français. La question, c'est pas tant à mon avis, c'est quel avenir pour la gauche que quel avenir pour la social-démocratie. Car en fait, au niveau européen comme au niveau français, on fait un peu le même constat, c'est-à-dire que partout la social-démocratie est très malade et pour cause, enfin, elle a besoin de la social-démocratie pour bien fonctionner, elle a besoin d'un capitalisme stable ça fait maintenant des années que le capitalisme ne l'est plus et donc la social-démocratie en fait en pâtit énormément. Et j'ai le sentiment que l'ère Hollande, le quinquennat Hollande, sonne vraiment la fin d'une social-démocratie qui, pour moi en tout cas, part sur l'échiquier de Macron et va jusqu'à Montebourg, jusqu'à Hamon et Montebourg, Lindemann et Filoche. Je crois que c'est toute cette expérience-là qui, à mon avis, historiquement, a vécu et est à enterrer.
Sur cette magnifique synthèse, Jean Garrigue, vous pouvez répondre à Gilles ?
Oui, alors on pourrait disserter des heures sur ce qu'est ou l'avenir ou même le présent de la social-démocratie, et même si elle n'est pas morte, parce que la construction social-démocratique telle qu'on peut imaginer qu'elle a été mise au point au congrès de Bad Godesberg par les sociodémocrates allemands en 1959. Bon, c'est quelque chose qui aujourd'hui est daté et on se peut même se demander si elle n'est pas en bout de course. Simplement, pour remettre les choses un peu au clair, je pense que dans la sphère des social-démocrates, on peut inscrire, et d'ailleurs ils se revendiquent comme tels, Manuel Valls ou François Hollande, même si on peut leur reprocher d'aller vers un social-libéralisme qui va un peu au-delà de ce que sont les canons de la social-démocratie. Mais il est très clair que Gérard Filoche, Marie-Noël Lindemann et les autres ne peuvent pas s'inscrire dans ce cadre-là. Ou en tout cas, on voit très bien chez un Gérard Filoche, par exemple, un discours de lutte des classes qui continue, si vous voulez. Donc là, on est dans des schémas qui sont plus du tout social-démocratiques. En revanche, il y a une marge de manœuvre de réflexion sur la social-démocratie, et sans doute que cette réflexion, maintenant que François Hollande n'est plus là, va pouvoir se développer, en tout cas se clarifier. Il y a une marge de manœuvre entre le ce qu'on pourrait appeler social-volontarisme à tendance souverainiste de Arnaud Montebourg, le social-républicanisme de Manuel Valls. Il y a quand même là des marges de manœuvre, des marges de réflexion sur lesquelles maintenant il convient de travailler, me semble-t-il.
On est au cœur de l'essentiel, Anne Muxel. La vraie question du positionnement du Parti Socialiste et de la gauche, est-ce qu'il faut recomposer ?
Oui, je crois que le temps est venu hein, d'un débat à l'intérieur de la gauche et particulièrement du Parti Socialiste pour effectivement définir le projet de société, le projet politique, économique qui sera proposé aux Français dans le cadre de cette campagne. Mais je crois que ce qui se passe aussi ne doit pas occulter le fait qu'on est aussi en face et les politiques quels qu'ils soient, quels que soient les partis, quels que soient les candidats aujourd'hui, sont quand même en face d'une opinion, me semble-t-il, très troublée. Et une opinion aussi chargée de demandes contradictoires. vis-à-vis des politiques, de demande paradoxale, hein, parce que les Français, ils veulent à la fois de l'État, de la protection, ils veulent aussi plus de libéralisme, plus de liberté dans certains secteurs, et je pense que c'est très difficile aujourd'hui, hein, pour les politiques quels qu'ils soient, et on va voir, même à droite, François Fillon a un programme très clair, très offensif, très défini, mais quand il s'agira de le proposer aux Français, de l'appliquer à tous les Français, on va voir que ça va sûrement être très difficile. Donc on retrouve toujours cette difficulté en France, hein, des politiques face à une opinion de plus en plus agie, en fait, par des attentes, des demandes paradoxales, parce qu'il y a, il y a vraiment une situation de voilà, les gens sont très déboussolés, en fait.
Gaël Sliman.
C'est vrai que vous avez une opinion publique qui est en attente de réponses parfois contradictoires. On a publié récemment pour Challenge un baromètre économique dans lequel on voit, en testant un peu en creux les propositions de François Fillon, en voyant qu'il y a des, il y a une adhésion à l'idée de la réduction de la dette et des déficits, il y a une adhésion à tout un tas de projets que peut porter le favori actuel des sondages. Et en même temps, vous avez raison Anne, on nous dit dans le même temps que on n'est pas d'accord avec l'idée de travailler plus longtemps. Vous avez souligné aussi à juste titre que François Fillon, qui est aujourd'hui dans une situation très favorable, après son investiture choc à la primaire de droite, il a été élu sur la base d'un électorat très particulier. La moitié des gens qui sont allés voter à la primaire de la droite sont des retraités. Or les retraités constituent la seule et unique catégorie en France qui est favorable à l'augmentation de l'âge de départ à la retraite des autres,
mais oui,
puisque eux sont déjà à la retraite.
En disant que ça permettra de financer la retraite.
Exactement. Et de ce point de vue, c'est ce que vous aviez suggéré à l'instant, ça va être compliqué d'assumer, comme il l'a pu le faire aussi clairement, parce que ça, c'était bien de sa part, mais d'assumer un projet politique comme celui-là devant un corps électoral qui sera cette fois très différent. Et ces formes d'injonction paradoxale de l'opinion, on les retrouve aussi à l'égard des sociaux-libéraux, que sont Valls, mais aussi Macron, qui sont aujourd'hui plus populaires que Montebourg ou Mélenchon, mais avec des projets qui finalement ne sont pas en adéquation avec les attentes du peuple de gauche. Donc tout ça, ça fait un joli globi-boulga et ça rend la compétition extrêmement compliquée.
Effectivement, on part au standard de France Inter. Pierre-Olivier, qui nous appelle du Vaucluse, est en ligne. Bonsoir Pierre-Olivier.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, c'est à vous.
Merci. Moi, je voulais dire que la non-candidature d'hier, pour moi, c'est un grand espoir pour la gauche, parce qu'il va falloir reclarifier tout ça, de la part de ceux qui ont des valeurs de gauche, qu'ils soient socialistes ou autres. Et il va falloir qu'il fasse le boulot rapidement et sereinement, mais correctement, parce que moi je vais dire que au deuxième tour, si je me retrouve avec Fillon et Le Pen, eh ben ce sera bien la première fois que j'irai pas voter, ou j'irai voter blanc, parce que il n'est pas question d'aller voter ni pour l'un ni pour l'autre. Donc je veux avoir un candidat de gauche. Je veux vraiment que la gauche soit présente, soit représentée avec les écologistes.
Merci beaucoup Pierre-Olivier pour cette intervention. J'ajoute Charles qui nous a transmis ce mail. Les candidats de gauche qui ne participeront pas à la primaire devront assumer le fait que nous ayons à choisir entre François Fillon et Marine Le Pen au deuxième tour. La seule possibilité d'échapper à cette situation est d'avoir un seul candidat de gauche au premier tour. Beaucoup, beaucoup de mails qui vont dans ce sens, qui veut répondre peut-être Gaël Sliman.
Peut-être d'un mot pour rebondir sur ce que dit votre auditeur. C'était encore plus vrai, encore plus marquant pour les électeurs de gauche, ce non-choix de second tour entre Marine Le Pen et un adversaire de droite, quand on testait des hypothèses Nicolas Sarkozy. Et là, pour le coup, la quasi-totalité des sympathisants ou des électeurs de gauche disaient non, ça c'est pas possible. C'est vraiment choisir entre la peste et le choléra. Mais c'est vrai que ce qu'il décrit, cet auditeur, ça se manifeste aussi dans les électorats de gauche maintenant avec François Fillon, qui a une personnalité beaucoup plus respecté par les électeurs de gauche, mais un programme tout aussi rejeté que l'était le programme de Nicolas Sarkozy. Et du coup, dans les enquêtes sur les seconds tours, on est globalement autour de un tiers des électeurs de gauche seulement qui se mobiliseraient pour aller voter François Fillon au second tour dans l'hypothèse où il affronterait Marine Le Pen. Alors très rares sont ceux qui voteraient Le Pen, mais on a une majorité des électeurs de gauche aujourd'hui qui nous dit ce que dit cet auditeur. C'est-à-dire, alors on verra ce qu'il ferait le jour où ça arriverait, mais en tout cas pour le moment, ils ne se sentent pas de voter entre ces deux mauvais choix à leurs yeux.
Jean Garrigue, les... Oui.
Ça, c'était d'ailleurs un argumentaire de la campagne d'Alain Juppé, hein, pour dire...
Oui, ça n'arrivait pas avec Alain Juppé, oui.
Oui. Si vous voulez une vraie opposition au deuxième tour à Marine Le Pen, une certitude de battre Marine Le Pen, ben, il faut avoir des reports venant de la gauche et du centre, et donc plutôt Juppé que François Fillon. Enfin, en tout cas, que Nicolas Sarkozy, puisqu'à l'origine, c'était plutôt par rapport à Nicolas Sarkozy. Non, pour ce qui est de la clarification,
cette Pierre Olivier, il dit qu'il faut faire ça vite. Là, vous pensez, vous, que ça peut se faire là en 5 mois, avec une primaire, là, déjà, au mois de janvier?
La primaire peut quand même contribuer à un échange d'idées et de programmes qui constitue une clarification. Sauf que le problème, c'est que précisément pour gagner une primaire, c'est aussi une élection à 2 tours, et c'est une élection qui implique une capacité à rassembler, à se recentrer, et il est quasiment sûr que, par exemple, si on prend l'exemple de Manuel Valls, et on l'entend déjà dans son discours depuis quelques semaines, on voit très bien que par rapport à ce qui pourrait être l'orthodoxie valsiste ou l'orthodoxie valsienne, c'est-à-dire cette république d'ordre, cette identité revendiquée, identité républicaine revendiquée, l'évolution vers une forme de social-libéralisme, il y a déjà de plus en plus des concessions, des mains tendues vers l'autre gauche que peuvent représenter les aubristes, par exemple. Donc, les choses vont quand même se brouiller. Il faut tenir compte aussi, effectivement, comme vous le disiez, de ce que l'électorat socialiste de base peut ou non supporter. Donc, tout ça fait que les choses vont peu à peu s'en mêler, se brouiller. Mais c'est comme ça, c'est le jeu des élections présidentielles aussi.
Anne Muxel, Manuel Valls parlait de deux gauches irréconciliables. Vous pensez que là, il va pouvoir tendre la main à ceux dont il ne partage pas le point de vue au point de rassembler?
Ça va être difficile, surtout qu'il arrive là dans un contexte où il y a quand même pas mal de cadavres dans le placard, si j'ose dire. Toutes ces dernières semaines, il y a eu quand même beaucoup de tensions, de conflits, de fâcheries, d'opposition, non seulement sur les idées, mais aussi en matière de relations humaines, de comportement. Donc, la situation est difficile. On souhaite évidemment que quelque chose se passe et que la voie de la réconciliation, de la raison se retrouve assez vite. Et je pense que là, il y a des attentes de l'opinion. Mais est-ce que, devant les faits, est-ce que les personnes qui sont sur la scène en ce moment vont être capables de le faire? Ça, c'est une vraie interrogation pour nous, les observateurs.
Et puis, il y a une autre question, Gaëlle Sliman. C'est à quoi rime une primaire sans Emmanuel Macron et sans Jean-Luc Mélenchon?
C'est tout le problème. Si vous avez une primaire, la situation, c'est même pas une question de sondage, c'est une question de mathématiques, d'arithmétique. Si vous avez un vainqueur de la primaire socialiste qui se retrouve, ce qui est le cas le plus probable aujourd'hui, face à un Jean-Luc Mélenchon qui aura quand même probablement de grandes chances de faire au moins 10%, et face à un Emmanuel Macron qui aura probablement lui aussi de grandes chances de faire plus de 10%, ça veut dire que le vainqueur de cette primaire socialiste, bah, il aura le plus grand mal à faire un score suffisant, ne serait-ce que pour passer devant eux, et s'il y parvient, pour pouvoir se qualifier et avoir le ticket de passage pour le second tour. Alors que dans l'hypothèse où Manuel Valls remporterait la primaire socialiste, ça paraîtra très compliqué pour les sympathisants sociodémocrates, sociolibéraux de se dire on va avoir face à face, bon Mélenchon ça se comprend, mais face à face Emmanuel Macron, Emmanuel Valls, qui dans ce scénario-là, politiquement, représentent quelque chose de très proche et qui vont se diviser leur voix. Donc on serait, alors ça a été employé plein de fois pour la gauche, pour la droite, face à la gauche la plus bête du monde, si elle se retrouve en situation de qualifier à coup sûr Marine Le Pen et François Fillon, parce qu'elle se diviserait au sein même de la petite famille sociale libérale.
Pour l'instant, c'est parti pour.
Et pour l'instant, c'est parti pour.
On repart au standard. C'est Stéphane qui nous appelle des Deux-Sèvres. Bonsoir Stéphane.
Oui, bonsoir. Déjà, un grand merci à Radio France pour la qualité de vos émissions, que ce soit France Inter et France Info.
Eh bien, merci pour le merci.
Donc, ma question est très simple. Moi, je sillonne la France en tant que commercial et j'entends parler que beaucoup de personnes vont voter au premier tour pour Marine Le Pen. Donc, mon hypothèse, c'est que ça va être vite réglé. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui que Marine Le Pen ne soit pas élue dès le premier tour?
Ah, alors ça, est-ce que c'est un cas de figure? Merci Stéphane pour cette question. On l'a posée au sondeur, Gaël Sliman.
Dès le premier tour, je ne fais pas beaucoup de paris, mais je vous parie que non. C'est pas trop dangereux comme pari. En revanche, qu'est-ce qui peut faire que Marine Le Pen n'arrive pas en tête au premier tour? C'est compliqué. Pour le coup, pendant très longtemps, elle a été soit en tête des intentions de vote présidentielles, soit de toute façon, quand elle n'était pas en tête dans le scénario où elle affrontait Juppé qui pouvait être devant elle, elle était autour des 30%. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, elle vient de baisser sérieusement. Ce qui est d'ailleurs une preuve de quelque chose qu'on a souvent dit sur cette antenne, qui est que l'électorat actuel de Marine Le Pen est quand même avant tout un électorat de droite. Meilleure preuve, c'est que quand un candidat d'une droite assez assumée et qui n'avait pas les casseroles de Nicolas Sarkozy en termes de personnalité, d'image, de bling-bling, est investi à la primaire de la droite, eh bien Marine Le Pen, pour le moment, baisse d'une dizaine de points. Donc, la question, c'est Marine Le Pen, au pire pour elle, fera probablement un score proche des 20%, et au mieux, pourra rattraper le retard qu'on constate aujourd'hui et remonter à des niveaux plus élevés. Ça va être compliqué pour elle, quand même, au second tour, puisque c'est peut-être ça qu'il y a comme question derrière ce que vient de dire l'auditeur. C'est est-ce que ce serait le moment pour elle, dès 2017? Il y a encore quand même un rejet de Marine Le Pen chez une très large majorité de Français, même s'il y a eu une dédiabolisation qui s'est opérée. Donc le plus probable, c'est que pour 2017, ce sera compliqué pour elle. En revanche, quel que soit le vainqueur en 2017, si ce n'est pas elle, il a vraiment intérêt à réussir et à ne pas décevoir les Français comme Nicolas Sarkozy et François Hollande ont déçu les Français. Parce que dans ce cas-là, rien ne lui interdirait de penser que 2022 serait son moment.
Pour en revenir quand même à 2017, merci oui. Gaël Sliman, Anne Muxel. Si on a donc François Fillon, candidat social-libéral de droite, si on a encore un candidat aussi à gauche social-libéral, les classes populaires, elles, qu'est-ce qu'elles vont écouter comme discours? Le discours... Et notamment les jeunes, le discours de Marine Le Pen?
Le discours de Marine Le Pen est toujours très, très entendu, hein, qu'il s'agisse des classes populaires, des jeunes aussi.
Des jeunes.
Je rappelle que
vous qui travaillez
les études qu'on a pu mener, les jeunes primo-votants, ceux qui vont voter pour la première fois, donnent d'abord leur voix à Marine Le Pen. Hein. Donc, c'est la candidate qui attire le plus de voix chez eux. Et là, étant donné cette reconfiguration, on va dire, politique, c'est vrai qu'elle vient de perdre une certaine assise électorale, étant donné la percée et l'affirmation du programme de François Fillon. Mais en même temps, on voit bien que très vite, elle se met à développer un programme qui veut mordre justement sur l'électorat populaire de gauche, voire de gauche. Hein. N'oublions pas qu'il y a là, et donc sur le terrain économique social, sur le terrain des services publics, sur le terrain de la protection de l'État, elle va jouer la carte à fond. Et là, ça va être très difficile. Hein. À gauche, on va voir comment le débat va se construire. Mais là, pour l'instant, elle est plutôt très bien placée hein, pour attirer à elle les classes populaires, les jeunes, et les jeunes des classes populaires tout particulièrement d'ailleurs.
Je peux juste ajouter un mot. Les fonctionnaires, pour confirmer ce que vous dites, les fonctionnaires aujourd'hui dans notre dernière intention de vote, la première candidate pour laquelle ils votent au premier tour, c'est Marine Le Pen. Donc elle est en train d'opérer ce qu'elle n'avait pas encore complètement réussi, effectivement, en séduction de catégories qui pouvaient être des catégories fidèles à la gauche jusqu'à présent. Elle commence à le faire.
On repart au standard de France Inter. Ahmed nous appelle depuis la Gironde. Bonsoir Ahmed, c'est à vous.
Bonsoir.
Bienvenue.
Mon point de vue, c'est que on est en train de vivre une situation un peu nouvelle à gauche. Auparavant, on culpabilisait les électeurs et les dirigeants de la gauche radicale en disant qu'il fallait voter utile au premier tour. Et dorénavant, on est en passe d'observer ce que les Espagnols de Podemos ont appelé El Sorpaso, et qu'ils n'ont pas réussi de très peu. Et la France insoumise de Mélenchon est en passe de réussir ça. Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir, est-ce que ce n'est pas cette fois-ci aux sociolibéraux de se retirer?
Bonne question. Merci Ahmed de l'avoir posée. Je voudrais qu'on prenne aussi François, qui nous appelle des Pyrénées-Orientales, et je crois qu'il est un petit peu sur la même longueur d'onde que vous. Est-ce que c'est ça, François?
Oui, c'est à peu près ça. Moi, je me disais que les électeurs de droite ont devant eux maintenant un vrai candidat de droite en la personne de M. Fillon, et qu'il serait peut-être temps pour la gauche, si on veut sauver quelque chose à gauche, de faire envisager une recomposition autour de M. Montebourg et M. Mélenchon. Je ne perds pas de vue que M. Mélenchon, dans le passé, a déjà tendu la main à M. Montebourg. Certes, pour le moment, ça peut paraître un peu de la science-fiction, mais il faudra voir ce même schéma après l'éclairage des résultats des primaires et peut-être du premier tour. Et peut-être même, malheureusement, je n'ose pas l'envisager, mais ça peut arriver, après une défaite de la gauche au présidentiel.
Merci beaucoup François pour cette intervention. Merci aussi à Ahmed. Jean Garrigue, peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit.
La réaction, c'est de dire que le niveau élevé d'intention de vote concernant Jean-Luc Mélenchon rend plausible, si ce n'est possible, mais rend plausible l'hypothèse d'une gauche de la gauche qui serait devant justement un candidat social-libéral qui lui-même serait issu de la primaire. C'est pas quelque chose d'inenvisageable, au contraire, et dans le contexte évidemment de radicalisation des électorats aujourd'hui, ça paraît comme quelque chose qu'on peut tout à fait envisager, ce qui conduirait à une composition politique au fond qui nous ramènerait aux années où le Parti communiste était plus puissant que le Parti socialiste. Alors ça pose quand même le problème ensuite de la capacité d'un candidat de gauche éventuellement à s'opposer à Marine Le Pen, d'abord à s'opposer au candidat de la droite, parce que il faut quand même aller chercher une partie de l'électorat centriste. Historiquement, ça a toujours été le cas. Si on veut gagner à gauche, c'est aussi en séduisant une partie d'électorat centriste. Puis ça pose le problème ensuite, dans un éventuel deuxième tour contre Marine Le Pen, de cette capacité justement à fédérer, à ne pas trop cliver pour attirer d'autres électorats. Enfin, tout ça pose quand même des problèmes difficiles.
Voilà, beaucoup de questions. Oui. Arthur par mail aussi qui nous dit « Politique fiction, si Montebourg gagne la primaire, Mélenchon se retire, il n'aura plus l'excuse du « je ne peux pas soutenir Valls, donc je ne participe pas à la primaire ». Ça cogite, hein.
Alors ça cogite fort, et c'est intéressant les deux réactions de vos auditeurs et ce que vous venez de dire. Et pour rebondir sur ce que disait Jean Garrigue, on a aujourd'hui, encore une fois, sur la photographie des intentions de vote, un Manuel Valls, par exemple, dans Odoxa n'en a pas fait, mais certains confrères l'ont fait, dans les hypothèses où Manuel Valls se présenterait, il est derrière Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Donc le scénario de politique fiction décrit par vos auditeurs comme de la politique fiction, aujourd'hui, n'est pas improbable du tout. Et c'est vrai que se poserait cette question. Ce serait quand même idiot d'avoir, pour l'électorat de la gauche, Arnaud Montebourg, dans ce scénario où il se qualifierait à la primaire, et Jean-Luc Mélenchon, qui s'affronteraient sur un socle idéologique pas si éloigné. Et à l'inverse, si c'est le social-libéral Manuel Valls qui remporte la primaire de la gauche, avoir au premier tour de la présidentielle, Valls et Macron, qui sont dans un mouchoir de poche en termes d'idéologie, qui s'affronteraient tous les deux et qui, du coup, tueraient toute chance pour l'un ou l'autre de se qualifier. Donc, c'est des questions qui se poseront. C'est pas du tout de la politique fiction, en fait.
Il y a vraiment beaucoup besoin d'une clarification, Anne Muxel. Hein.
Oui, tout à fait. Mais enfin, n'oublions pas que, sur le papier, pour l'instant, il y a plus de suffrages qui seraient donnés à la droite qu'à la gauche. Hein, la gauche, aujourd'hui, les suffrages pour la gauche, malheureusement, la France, les Français, alors, il va peut-être se passer quelque chose. Il va peut-être y avoir un réveil, un sursaut.
C'est peut-être un mouvement général de gauche, au-delà des frontières.
Mais pour l'instant, hein, on n'en est pas là. Si on met la droite plus Marine Le Pen, hein, on en est à deux tiers, un tiers. Hein, c'est ça le rapport de force actuel. Enfin, oui. Gaëlle Sliman va le confirmer. Oui. Mais voilà, on est dans cette situation. Donc après, on raisonne sur ce qui va se passer à l'intérieur de ce tiers, pour l'instant, qui se dit encore de gauche et qui est encore prêt à donner une voix pour la gauche.
Mais raison de plus, on peut se dire. C'est-à-dire que déjà que la gauche est minoritaire, si en plus elle est complètement divisée et éclatée, y compris au sein de sous-familles très proches, Montebourg, Mélenchon et Valls, Macron, c'est un peu étonnant quand même.
Jean Glavany appelle, lui, Jean Garrigue, à reconstruire un PS qui, dit-il, est dans un état pire que la SFIO en 1969. Vous qui êtes historien, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah écoutez, alors, si le candidat du Parti Socialiste réalise un score de 5% comme l'avait fait Gaston Defferre, alors là, on pourra dire qu'on est dans le même état. Non, mais blague à part, c'est vrai que il y a une crise du Parti Socialiste, crise de militantisme, crise précisément de ligne politique, crise de leadership, enfin, la crise est partout. On a vu d'ailleurs comment les primaires avaient un peu colmaté les brèches d'une crise similaire du côté des Républicains. On peut penser que cet effet cosmétique puisse se réaliser aussi pour le Parti Socialiste. Mais se pose aussi une question à un peu plus long terme, c'est de savoir qui sera qualifié, qui serait qualifié au, dans un éventuel deuxième tour pour avoir le leadership d'une gauche qui se rallierait à François Fillon. Comment ça se passerait ce ralliement? Parce que à ce moment-là, se posera la question justement de la capacité des électeurs de gauche à se rallier à la droite conservatrice et peut-être ultralibérale, même s'il y aura peut-être une évolution d'ici là de François Fillon. Enfin, tout ça pose quand même des sérieuses questions.
On repart au standard et on va dans les Yvelines. Bonsoir, c'est Christian qui nous appelle. Bonsoir Christian.
Oui, bonsoir, bonsoir. Merci pour vos émissions. Je voulais juste avoir une remarque et à soumettre à vos invités, qui est en même temps une question. Moi, je suis personnellement un électeur de droite modéré et je m'inquiète, comme tous les électeurs, comme toutes les personnes de droite et encore plus de gauche, sur l'éventualité de Marine Le Pen au deuxième tour. Est-ce que moi, je me sentirais plus tenté de voter pour Monsieur Macron à gauche que pour Monsieur Valls? Alors, est-ce que il est envisageable, ou comment voyez-vous les choses, si M. Valls, qui a dissuadé François Hollande de se présenter, est-ce qu'il ne pourrait pas limiter de façon à ce que M. Macron puisse représenter la gauche, en fait?
Alors, on va poser la question à Gaël Sliman. Merci, Christian.
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, et on pouvait même se demander, pour les électeurs de gauche, les sympathisants de gauche, de cette obédience-là, social-démocrate, social-libérale, s'ils n'auraient pas espéré que François Hollande, dans son allocution, dans sa déclaration, envoie un signal fort, demandant, mais le pouvait-il, la réconciliation Valls-Macron. Parce que effectivement, on voit chez Emmanuel Macron une très forte propension à séduire des électeurs du centre et de la droite, et c'est d'autant plus vrai qu'il a face à lui un adversaire formidable avec François Fillon. C'est-à-dire qu'il a un adversaire qui est plus à droite que lui sur le plan économique, et qui peut presque gauchiser du coup un Emmanuel Macron qui est perçu comme étant quand même assez à droite par les électeurs de gauche, et surtout qui est très à droite sur le plan des valeurs, ce que n'est pas du tout Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron a une capacité à récupérer des électeurs de Bayrou par exemple, et à récupérer même une partie des électeurs de la primaire de droite qui ont voté pour Alain Juppé.
Bonne question. Effectivement, Jean Garrigue, Emmanuel Macron, vous y croyez, vous?
Ah, en tout cas, ça a été, je pense, pour lui une divine surprise de voir François Fillon battre Alain Juppé au deuxième tour de la primaire. Oui. C'est évident que ça lui libérait un espace politique. Maintenant, c'est un espace politique aussi qui est fragile. L'hypothèse Bayrou est encore là sur la table. Maintenant, le problème pour Bayrou, c'est que au fond, il a un nouveau Bayrou qui est plus jeune et qui représente beaucoup plus la société d'aujourd'hui et les aspirations, l'ubérisation de la société d'aujourd'hui que lui-même. Donc ça, c'est un vrai problème. L'autre problème, peut-être, alors le vrai problème pour Emmanuel Macron, c'est précisément cet électorat de gauche, savoir dans quelle mesure il est capable de séduire, de grappiller une partie de cet électorat de gauche qui est quand même très rétif aux idées du social-libéralisme. Il semblerait que Emmanuel Macron soit plus populaire à droite qu'à gauche. Donc oui. Là, il y a... Voilà. Et donc, il y a un enjeu qui est quand même difficile pour lui.
Pas facile de s'y retrouver. On part une toute dernière fois au standard. C'est Jean-Claude qui nous appelle de Villeurbanne. Bonsoir Jean-Claude.
Oui, bonsoir. Il y avait un aspect que je voulais soulever et qui a été mentionné, je crois, sur vos antennes. D'ailleurs, merci pour vos émissions au passage. Celui d'insurrection démocratique, on en a parlé à propos du vote des couches populaires pour Trump, et puis un peu du Brexit aussi, où les gens finalement disent, ça paraît stupide puisqu'ils votent contre leur intérêt en votant pour Trump, mais en fait il y a l'aspect de dire on va sortir d'un système où les médias se déchaînent pour nous asséner des choses évidentes, comme par exemple la rigueur que le CDU est en train de contredire, enfin etc. Et de ce point de vue-là, est-ce que la gauche insoumise de M. Mélenchon n'est pas bien placé pour capitaliser ça? Alors ce qui est malheureux, c'est qu'on en entend parler que quand Marine Le Pen reprend des points du programme de la France Insoumise. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas pour les médias le moment d'allumer un peu les projecteurs qui ont été très longtemps éteints sur ce coin d'ombre?
Merci Jean-Claude pour cette question rapidement, peut-être Anne Muxel.
Oui, il est clair que cette campagne présidentielle qui va bientôt s'ouvrir, elle a lieu dans un temps de très forte défiance à l'égard de la politique, d'un climat protestataire très important. On mesure, nous, dans nos enquêtes au CEVIPOF, la montée, finalement, de cette citoyenneté critique, du fait que les gens ne sont pas d'accord avec l'offre électorale qu'on leur propose, qu'ils ne se reconnaissent pas dans les institutions, qu'ils se montrent défiance à l'égard du personnel comme des institutions politiques. Bref, ils ne font confiance, d'ailleurs, ni une grande majorité ne font confiance ni à la droite ni à la gauche pour gouverner. Donc, c'est quand même dans ce contexte-là, hein, que l'offre politique et électorale doit s'établir. Et donc, c'est vrai que cette partie d'une France prête à se mobiliser, prête à se fâcher, prête à contester, comment les candidats en présence vont ou les récupérer ou devoir négocier avec elles ? Donc, c'est aussi une question très, très compliquée.
Une vraie question.
Le climat, la question du climat social.
Merci beaucoup, Anne Muxel. Le mot de la fin, Jean Garrigue, vous avez 30 secondes sur ce sujet. Très vaste.
Et mot de la fin, c'est pour souligner l'incertitude précisément de cette situation politique. Je pense qu'il n'y a jamais eu d'élection présidentielle sous la Ve République qui était autant incertaine à quelques mois du but. Et précisément, la fluidité, la volatilité de cet électorat qui est en refus des pouvoirs, en fait, et donc dont on ne sait pas très bien où il peut aller.
Un électorat qui se dit tant qu'à faire bouger les choses, il faut que ça pète. On vote aux extrêmes. Marine Le Pen, au moins les choses vont changer.
Un électorat qui vote massivement aux extrêmes, un électorat, et c'est pas une spécificité française, qui, Anne Muxel l'a dit, a tendance à complètement se désintéresser de ce qu'on appelle l'establishment, de ce que Jean-Marie Le Pen appelait l'establishment, c'est-à-dire finalement les élites. Et c'est vrai que les enquêtes du CEVIPOF le montrent depuis des années. Ça fixe un enjeu, ça situe un enjeu majeur pour le prochain président de la République. Quel qu'il soit, il n'a pas le droit de décevoir.
Voilà, et c'est aussi ce que disait François Hollande hier soir. Méfiez-vous de ceux qui vous font des promesses. Hein. Merci beaucoup à Gaëlle Slimane, Anne Muxel, Jean Garrigue. Merci aussi à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Ils se reconnaîtront.